Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une spéciale lutte environnementale et sociale en partenariat avec trois radios de la CorLab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. À chaque fois, c'est le dernier vendredi du mois. Aujourd'hui, on va parler de champs d'olives en Palestine, de stades de foot toujours plus grands, de fermes aux allures d'usines et puis d'une librairie itinérante et combative. Bienvenue dans L'Arène. Pas d'infos du jour aujourd'hui, on va directement commencer cette émission un peu spéciale. Chaque dernier vendredi du mois, je vous propose en effet d'écouter le travail d'autres journalistes bretons sur le thème des luttes environnementales et sociales. Le tout en partenariat avec d'autres radios qui sont membres, comme Canal B, de la CorLab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Aujourd'hui, vous allez entendre Radio Laser, Radio Crèze-Brèze et puis Radio Évasion pour couvrir l'ensemble des territoires bretons avec Canal B. Je vous propose en effet un premier sujet alors qui va dépasser nos frontières. C'est le témoignage de Joël et Dominique, deux membres rennais de l'association France-Palestine Solidarité. Ils sont arrivés en Cisjordanie, territoire palestinien, avant l'attaque terroriste du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier et la réponse militaire réponse militaire d'Israël sur les territoires palestiniens. Le témoignage que vous allez entendre est nuancé. Il est important pour comprendre les enjeux autour de la terre. Depuis le 7 octobre, on le redit, en Cisjordanie, 110 personnes ont été tuées par l'armée israélienne.
Bonjour, moi je m'appelle Joël, mon compagnon s'appelle Dominique et on fait tous les deux partie de l'association France-Palestine Solidarité. L'association AFPS existe sur Rennes depuis 1988. Alors, c'est pas par hasard, en fait, c'est que depuis cette date-là, et même avant, depuis la création d'Israël, le droit international n'est pas respecté. Et donc, il y a des associations qui se sont mises en route pour exiger l'application du plan de partage et des résolutions qui ont suivi. Parmi les actions qu'on a faites, bon, il y en a eu plein. Hein. Il y a eu des reconstructions de bâtiments médiévaux pour les transformer en centre social. Il y a eu des financements de centres de PMI. Mais depuis une vingtaine d'années, en fait, on travaillait sur deux axes principaux. C'est à la demande des paysans palestiniens, les accompagner pendant les cueillettes d'olives qui se déroulent tous les ans entre octobre et novembre. Parce que, en fait, ils n'arrivent pas à accéder à certaines de leurs parcelles qui sont proches des colonies ou proches des routes de contournement. Et donc, ils ne peuvent pas y accéder s'il n'y a pas de présence d'internationaux. Donc, l'organisation des cueillettes, ça fait partie d'une des actions de la FPS. Et également, la création et puis le soutien d'une coopérative agricole au sud, vers Hébron. Donc, l'idée, c'était de permettre aux paysans palestiniens de ne pas perdre le fruit de leur récolte, même quand les routes étaient bouclées, et donc de pouvoir mettre en place des installations leur permettant de transformer leurs raisins en jus de raisin pasteurisé.
La Cisjordanie, c'est une zone qui se trouve à l'est d'Israël et effectivement coincée entre Israël et la Jordanie. C'est d'ailleurs un espace qui a été longtemps sous administration jordanienne. en particulier jusqu'à la guerre des six jours, c'est-à-dire que Gaza était sous administration égyptienne, la Cisjordanie sous administration jordanienne. Il n'y a jamais eu en réalité d'indépendance palestinienne, ça n'a jamais existé. Depuis la guerre des six jours, la Cisjordanie est un territoire occupé par Israël, de la même manière que Gaza, aux yeux du droit international. C'est comme ça qu'il faut définir ces deux espaces géographiques. Depuis les accords d'Oslo, la perspective qui avait semblé apparaître à ce moment-là, c'était celle d'une émancipation à travers l'installation d'une autorité palestinienne transitoire jusqu'à une autonomie et une indépendance totale de ces deux territoires. Ça n'a jamais vu le jour et très clairement, enfin, si on veut faire un petit peu d'histoire récente, les tout premiers attentats qui ont eu lieu dans la région l'ont été à l'initiative de colons israéliens, notamment par exemple à Hébron, le massacre qui a eu lieu à l'intérieur de la mosquée des patriarches. C'est un colon israélien qui s'y est pointé et qui a tiré dans le tas des fidèles qui étaient là, quoi. Donc il faut aussi à un moment donné dire les choses. Tous les attentats qui ont suivi et qui ont pu être organisés, notamment par le Hamas par exemple, l'ont été à la suite de ce premier attentat. Voilà, alors la Cisjordanie, pour que les gens chez nous se rendent compte, c'est plus petit que l'Ille-et-Vilaine. Par contre, la population y est beaucoup plus importante. En Ille-et-Vilaine, on est à un peu plus d'un million d'habitants. Dans la Cisjordanie, il y a 3 340 000 habitants. Donc on est vraiment sur des rapports de densité de population qui sont totalement différents. Pour ce qui concerne la bande de Gaza, parce qu'il faut bien parler de la bande de Gaza, c'est deux fois plus petit que Red Métropole. Mais par contre, la population y est de 2 200 000 habitants, grosso modo. Et puis, Red Métropole, c'est 452 000 ou 53 000 habitants aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est très important. Au moment, par exemple, où l'armée israélienne exige des habitants du nord de la bande de Gaza qu'ils évacuent pour aller au sud, qu'est-ce que ça signifie quand en plus c'est un goulot d'étranglement, c'est au plus étroit 3-4 kilomètres et en considérant en plus que les bombardements n'ont jamais arrêté, enfin ils ont continué à bombarder partout pendant cette période où ils exigeaient des gens qui se déplacent.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas séparer la Cisjordanie et la bande de Gaza? Parce que d'abord, fondamentalement, c'est la même population, c'est les mêmes familles parfois. Gaza s'est constitué de 67% à peu près de réfugiés. En fait, il faut vous imaginer une situation, vous êtes un jour X, vous allez faire vos courses à Champy, et puis paf, la guerre elle arrive, vous êtes bloqué, et votre famille est bloquée de l'autre côté de la frontière. En fait, c'est un peu ça. Il y a une population palestinienne qui a été morcelée, en fait, quand il y a eu la guerre de 48, la guerre de 67. Et donc, c'est la même population à Gaza et en Cisjordanie. Et quand on parle des répercussions de la guerre en Cisjordanie, pour les Palestiniens, le pire, c'est ce qui se passe à Gaza. Et quand on est sur les hauteurs de Al-Ghul en Cisjordanie, donc au sud du côté de Hébron, on voit Gaza. C'est-à-dire que nous, on est resté trois semaines là-bas, on avait la télé allumée, donc c'était du direct. On voyait une bombe tomber sur Gaza, et deux minutes après, on entendait le bombardier qui passait au-dessus de la maison. Donc ici, les gens, aujourd'hui, en Cisjordanie, ne parlent, ne pensent, ne vivent que par rapport à ce qui se passe à Gaza, où pour eux, c'est un génocide inimaginable, et ils ne comprennent pas comment la communauté internationale ne réagit pas, quoi. Les gens, ils sont bloqués aujourd'hui parce que les routes sont bloquées, etc. Il y a les colons qui attaquent, l'armée aussi, hein. Par exemple, à Tul Karem, sur le camp de réfugiés de Nour el-Shams, il y a eu des attaques d'hélicoptères Apache, avec aussi des drones suicides, etc. Ça, c'est l'armée israélienne, c'est pas les colons. Donc il y a une complémentarité complète et une connexion complète entre aujourd'hui, entre l'armée et les colons, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas dans le passé, où parfois l'armée calmait les colons. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas.
mais c'est aussi parce que l'armée est sous les ordres d'un gouvernement dans lequel il y a clairement des gens qui sont fascistes. Il y a dans ce gouvernement des gens qui appellent à tuer, égorger les enfants, les femmes, à violer les femmes, etc. Enfin, c'est des paroles publiques. Alors, ceci dit, bon, il y a évidemment une différence dans la répression entre Gaza et la Cisjordanie, parce que Gaza, c'est la démesure totale, c'est l'horreur absolue en permanence. Je pense que les gens qui veulent avoir une notion de ce qui se passe à Gaza peuvent lire les rapports des Nations Unies qui sont publiés par son office qui s'appelle OCHA. O-C-H-A. C'est des personnes complètement indépendantes, complètement qualifiées, qui parlent de la même manière des attaques contre les civils palestiniens et contre les civils israéliens, mais ça donne quand même une idée de l'impact de ce qui se passe en ce moment. Et sinon, la Cisjordanie, c'est l'apartheid. C'est des systèmes de routes différents qui sont empruntables par les uns et pas par les autres. C'est des villes qui sont bouclées. Il faut essayer de passer par des petits chemins de traverse. Et même les petits chemins complètement défoncés par lesquels les voitures essayent de passer, parce que la vie, il faut qu'elle continue, bah, ils sont peu à peu bouchés, quoi. Et puis, vous avez les checkpoints volants qui peuvent intervenir n'importe quand. Hier soir, on devait partir de Zawiya pour rejoindre Ramallah. En fait, on l'a pas fait parce qu'on a eu des informations comme quoi... voilà, c'était dangereux, quoi. Alors, évidemment, le Hamas tire des roquettes depuis Gaza. Nous, on les entend, les explosions. Hein. Alors, elles tombent où elles peuvent. L'autre jour, on était en train de cueillir du raisin à Al-Houl. On a entendu trois grosses explosions sourdes. Et en fait, c'était des missiles, des roquettes du Hamas qui étaient tombées juste à côté sur des serres. Et il y a trois paysans palestiniens qui ont été blessés, quoi. Parce que les moyens sont pas les mêmes, quoi, en termes de technologie, je pense.
Alors, à propos des cueillettes, en fait, de notre côté, elles n'ont pas lieu. On est arrivé avant la date prévue pour le démarrage des cueillettes. Et compte tenu de ce qui s'est passé le 7 octobre, tout a été annulé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de vol de toute façon pour arriver à l'aéroport à Tel Aviv. Donc les gens qui étaient volontaires pour participer n'ont jamais pu arriver. Ce qui fait que pour notre part, on a essentiellement fait des cueillettes de raisins, puisqu'on était coincé dans un village où il n'y avait que ça. Je pense qu'il faut rappeler pour quelles raisons les paysans palestiniens ont tellement insisté pour qu'il y ait une participation internationale à ces cueillettes. L'armée israélienne utilise une pseudo-législation, puisque évidemment il faut toujours faire comme si les choses étaient légales quand on est colonialiste. On décrète par exemple que quand une terre n'est pas exploitée pendant 3 ans, elle est abandonnée et dès lors, elle devient annexable par l'État d'Israël. La loi internationale interdit cela, mais Israël considère qu'il peut mettre la main sur toute terre appartenant à des Palestiniens. C'est très simple, pour décréter qu'une terre est abandonnée, vous en interdisez l'accès pendant 3 ans, au terme desquels vous dites « ils ne sont pas venus, donc la terre est à nous ». Et on y construit des colonies ou des extensions de colonies, etc., etc. C'est comme ça que ça marche ici. On a eu le témoignage hier d'un ami du village de Deristia qui nous disait qu'au moment où il nous rencontrait, il y avait un groupe de paysans qui tentait d'accéder à ces terres, accompagnés par des volontaires israéliens. Ça, c'est important de le dire aussi aujourd'hui. Les volontaires internationaux n'ont pas pu accéder au territoire occupé. Donc aujourd'hui, seuls des Israéliens solidaires des paysans palestiniens, opposés à la colonisation, peuvent donner un coup de main. Et ils se font traiter comme des chiens par les colons. Ils se font frapper, ils se font parfois emprisonner. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision totalement manichéenne, unilatérale de ce qui se passe ici. Il y a des Israéliens qui se battent contre la colonisation. Alors évidemment, ils sont très peu nombreux. Aujourd'hui, les témoignages qui proviennent d'Israël sont extrêmement inquiétants sur la manière dont sont traités les gens qui tentent de manifester contre les bombardements à Gaza, contre la colonisation, etc. Alors quant à notre retour, ben on ne sait pas, du tout. Air France a annulé ses vols, on n'a pas de nouvelles de leur part. Ils ne nous proposent pas de solution alternative. Le consulat général de France à Jérusalem est au courant de notre présence ici. On a vraiment l'impression d'un service minimum, quoi. Ils nous ont répondu en disant, ben, inscrivez-vous sur Ariane, l'application du ministère des Affaires étrangères. On n'a que des informations extrêmement générales et rien concernant notre type de situation à nous. Et puis, ben, on rentrera quand on pourra, quoi. Et bonne journée à vous et puis... Et puis à bientôt peut-être.
Après ce témoignage recueilli depuis la Cisjordanie, eh bien maintenant on revient à Rennes avec une interview réalisée par Simon Leclerc. Il est animateur à Radio Laser du côté de Guichen et avec lui on prend des nouvelles du collectif de la Prévalet opposé à l'extension des terrains du Stade Rennais.
On s'en souvient, hein, un centre d'entraînement du Stade Rennais devait se construire sur un espace naturel, à la Prévalet évidemment, et depuis, des citoyens se sont lancés dans un bras de fer face à la mairie de Rennes et les instances du club de football pour préserver le plus de nature possible autour de Rennes. Alors où en sommes-nous? Il est temps de faire un point puisque des éléments judiciaires viennent alimenter le débat. Avec nous Dominique, qui est membre du collectif de la Prévalet. Bonjour.
Bonjour.
Un jugement a été rendu le 2 octobre dernier. Il vous a poussé à publier un communiqué de presse. De quoi il était question, Dominique?
Oui. Alors pour repartir un peu dans l'histoire, ça fait quelques années donc ce projet d'extension du Stade Rennais, de son centre d'entraînement du coup était contesté. Et là, on était un petit peu peut-être rendu un peu plus dans cette histoire, à savoir que maintenant déjà l'échelle, la taille du projet avait beaucoup été réduite par toutes les contestations qu'il y avait eu. Et là, maintenant sur la dernière partie du projet qui était tout de même une extension de 3,5 hectares sur des jardins, sur une zone humide, sur aussi une ancienne petite parcelle où il y avait avant deux personnes qui y travaillaient. Bref, cette extension-là, du coup, avait été attaquée en justice. Et c'est le jugement qui a été rendu le 2 octobre, où malheureusement, du coup, ça a été un jugement négatif pour nous, du coup favorable pour l'extension du Stade Rennais, sur en raison du coup d'un usage assez conservateur du droit environnemental, vous voyez, qui parfois peut être utilisé pour défendre des intérêts privés, en donnant plein de dérogations, à savoir ici des dérogations pour quand même détruire des habitats d'espèces protégées, des dérogations pour pouvoir quand même construire sur des zones humides ou utiliser des produits phytosanitaires sur des zones humides, en tout cas des zones avec de l'eau qui est en surface ou un petit peu en profondeur. Dans ce cas-là, où elle a prévalé, en fait, on n'est pas loin du canal et sur les terres qui sont concernées, on a de l'eau un petit peu partout, mais à une petite profondeur en fait, avec la présence du coup de beaucoup de pluie notamment dans cet espace là et de nombreux épines qui à droite à gauche.
Dominique, à la lumière de tout ce que vous venez de nous dire, je sais que vous ne voulez pas relancer de démarches judiciaires avec les associations et collectifs concernés. Est-ce que je peux vous demander pourquoi?
Ben, ça a été un choix plutôt stratégique. Déjà, faut savoir que en fait les travaux ont commencé cet été, donc là le jugement que nous avons porté du coup avec l'association de la Nature en Ville et avec le collectif de la Prévalet, c'était en urgence pour essayer de stopper les travaux au plus vite, alors que là un recours en juridique en urgence ça peut être jugé en quelques mois. Voilà, c'est ce qui a été fait et déjà c'était un peu plus long que ce qu'on espérait, mais bon. Et ensuite pour le recours qu'on appelle au fond, où vraiment le permis de construire va être jugé dans le détail, parce que là en tout cas c'est le permis de construire qui a été attaqué, faut attendre un an. Et faut savoir que là l'intérêt pour nous c'était d'essayer d'empêcher les travaux au plus vite parce que les travaux étaient en cours. Et maintenant, en fait, vu que la juge n'a pas voulu suspendre les travaux, ça voudrait dire continuer des recours pendant un an pour espérer un an avoir le recours final qui peut-être arrêterait le permis de construire, mais ce serait trop tard pour les travaux. Vous voyez, on a déjà détruit la plupart des terres qui étaient sur place. Et donc,
est-ce que c'est vrai que l'association qui a engagé ces démarches juridiques, donc la Nature en Ville, on lui demande maintenant de payer une amende?
Ben, ça a été la décision de la juge, ouais. Qui est une décision a priori qu'on peut tout à fait dénoncer. Je pense qu'on voit du coup que ce serait au bénéfice du Stade Rennais qui est propriété d'un milliardaire ou de la ville de Rennes. Et par rapport au fond que peut avoir une association ou nous en tant que collectif citoyen. Donc il y a une vision aussi d'une justice punitive qui est un peu conservatrice et qu'on dénonce tout à fait. Et bien maintenant, du coup, il y a ces 2000 euros que la juge a demandé à la Nature en Ville de donner du coup à la ville et au Stade Rennais. Et c'est du coup pour nous une décision tout à fait scandaleuse et on s'organise pour que l'association n'ait pas à subir trop de problèmes vis-à-vis de cette amende.
Alors toujours d'après le communiqué de presse que vous avez envoyé à différents organismes dont Radio Laser, vous aviez proposé une solution, notamment en proposant un espace où construire ce fameux centre d'entraînement. Là non plus apparemment ça n'a pas été possible, alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Bien, en fait, si on reprend un petit peu en arrière, si on regarde un peu en arrière dans le passé, il y a eu une longue période de négociations, du coup, de rapports de force contre les élus et le Stade Rennais pour protéger la Prévalet, ses terres agricoles et ses activités paysannes. Et l'une des propositions qui a notamment été portée par le collectif de la Prévalet, c'est que le centre d'entraînement soit déplacé à un autre endroit. Faut savoir que la Prévalet, historiquement, c'est une zone de maraîchage. Hein, lorsque le Stade Rennais s'est installé à la fin du XXe siècle, eh bien, c'était à la place du coup d'une zone qui était cultivée depuis très longtemps. Et la proposition qui était faite, c'est que si le Stade Rennais se sentait à l'étroit et qu'en plus ses activités étaient peu compatibles avec la vocation paysanne de la Prévalet, c'était d'aller plutôt sur une ancienne zone industrielle. Vous voyez, une zone qui est déjà artificialisée, où le Stade Rennais aurait eu les moyens pour remettre cette zone en état pour y faire un centre d'entraînement, pour y faire des terrains de foot, quoi. Ce qui aurait été du coup, on ne perdait pas des terres agricoles. On utilisait en même temps un espace qui était anciennement déjà artificialisé, urbanisé. Et du coup, il y avait une proposition qui était portée, notamment du coup, pas loin de l'endroit de la Prévalet, là, à l'ancienne Bargoma. Et plutôt, la ville disait que c'était un espace qui n'était plus utilisé maintenant, mais que la ville destinait à d'autres usages. Et on n'a pas pu en savoir plus. Et maintenant, la dernière nouvelle qu'on a eue, c'est que apparemment, le Stade Rennais envisagerait d'y construire un nouveau stade avec la nouvelle, un nouveau fantasme de construire un plus grand stade. Là, cette fois, l'enceinte du stade, quoi, le Roazhon Park, qui accueille les matchs professionnels, quoi. Donc, pour nous, c'est une drôle de situation où, en fait, il y a une double communication. D'un côté, le Stade Rennais annonce qu'il voudrait agrandir son stade parce que, soi-disant, ils sont à l'étroit dans une enceinte de 30 000 personnes. Ce qui est déjà questionnable tout à fait. Mais c'est toujours une sorte de folie des grandeurs, quoi. En tout cas, à nos yeux. Mais d'un côté, le Stade Rennais dit qu'il voudrait agrandir l'enceinte existante. De l'autre côté, le Stade Rennais dit qu'il aurait un projet de faire un plus grand stade à un autre endroit, du coup, et de le déménager complètement, quoi. Donc, pour l'instant, on voit ça un peu comme un exercice de communication où peut-être le Stade Rennais demande davantage de construire un nouveau stade à un autre endroit qui serait plus grand, qui prendrait plus de foncier, qui demanderait plus d'argent. Et peut-être que demander beaucoup comme ça, ça lui permettrait d'avoir moins et d'avoir au moins l'agrandissement du stade à de l'existant, quoi. Une manière de comment.
Est-ce que les collectifs et les associations vont tenter quelque chose contre cette volonté du Stade Rennais ?
Pour l'instant, la volonté est un peu comment dire ? Pour l'instant, c'est que des objets de communication. Donc, on n'a pas forcément de projet en l'état sur lequel vraiment pouvoir s'opposer. Donc, il y a une veille de voir un peu qu'est-ce qui se passe et de suivre cette histoire aussi de foncier par rapport à l'ancienne Bargoma où si la ville peut pas forcément avoir un double discours de vouloir et ne pas artificialiser des terres et en même temps lorsqu'on a quand même des espaces en ville qui justement pourraient être utilisés, les gaspiller si je peux dire pour en faire quelque chose qui n'est pas nécessaire comme un nouveau stade de foot.
Et alors Dominique, pour conclure, dans le communiqué de presse, vous listez quand même, pour finir sur une note positive pour votre côté de la conversation, vous terminez donc sur une liste d'avancées qu'il y a eu sur le sujet. Est-ce que vous pouvez revenir dessus pour nous ?
Forcément, comme ça a été une lutte de plusieurs années, on a énormément de bons souvenirs déjà de ce qui s'est passé en termes de mobilisation de toutes les personnes, de toutes les associations, les collectifs qui ont pu se mobiliser, soit dans des instances où on a pu défier les élus et les représentants du Stade Rennais, soit autrement avec de la mobilisation sur le terrain où il y a des arbres qui ont été plantés, où il y a un jardin à défendre qui a été tenu, où il y a eu des manifestations. Et donc en plus de tous ces bons souvenirs-là, en plus d'avoir créé un univers et des alliances en termes de lutte, ont permis en plus d'arracher du coup des terres à cette prédation foncière du Stade Rennais. À savoir qu'au départ, il y avait toute une parcelle de 5-6 hectares que le Stade Rennais voulait constituer comme une réserve foncière pour y construire d'autres terrains et s'étendre encore à l'avenir, étendre son centre de formation. Maintenant, à un moment dans la mobilisation, on a réussi à faire céder et le Stade Rennais et à forcer la ville à ce qu'il y ait une installation agricole. Donc En ce moment, du coup, il y a une ferme qui s'installe du coup sur une terre qui auparavant était menacée par le Stade Rennais. En plus d'avoir du coup fait retarder le projet, d'avoir visibilisé, comme beaucoup en France, il y a beaucoup de jardins populaires, voilà, et jardins ouvriers qui se défendent contre ces projets d'artificialisation. On peut penser aux jardins d'Aubervilliers qui ont réussi à gagner et notamment qui sont à remettre en état face à un projet de piscine et de solarium dans le cadre des JO 2024. Voilà. Ça fait partie de cette petite lutte qui en rejoint beaucoup d'autres. Et on espère que voilà, cela continuera pour la Prévalais, ou la terre ou l'eau de la Prévalais pour continuer à être préservée dans une vocation de Prévalais paysanne et de biodiversité. Quoi.
On vous a entendu, on va vous remercier Dominique d'avoir fait le point sur la situation à la Prévalais avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous faites partie du collectif de la Prévalais. Merci à vous. I was far from my mind. I was so far behind. With the autumn light in my eyes, I was rolling home, adrift and alone. Late for the day, like a skimming stone. October sun, what have you done? You'd make a fool of each and every one. October sun, where will you run now that you've broken rank with each and every one? On the hill, feel the wind coming in. I'm closer now than I've ever been. October sun, what have you done? You've made a fool of each and every one. October sun, where will you run now that you turned your back? Turned away to go again. Turned your back to abandon each and every one.
October Sun, le soleil d'octobre, chanté par Oisin Leach. Oisin Leach, je ne sais pas comment on prononce, c'est en tout cas une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B, un single qui est sorti le 17 octobre et c'est le premier titre solo de ce songwriter irlandais en featuring avec M. Ward et Tony Garnier. Vous êtes sur Canal B et aujourd'hui, l'AREN relaie le travail de radio partenaire sur le sujet des luttes environnementales et sociales. Morgane Large, vous avez peut-être entendu son nom, eh bien, elle est journaliste à Radio Crèze-Brèze dans les Côtes d'Armor. Elle nous propose aujourd'hui un reportage sous forme de retour sur une manifestation contre les fermes-usines. Ça a eu lieu dans le Morbihan, à une vingtaine de kilomètres de Rostrenin, début octobre, et ça a été diffusé dans l'émission La Petite Lanterne.
On revient sur la manifestation du 7 octobre à Priziac, une manifestation contre les fermes-usines. En studio, on écoute tout de suite François. Il fait partie du collectif Bretagne contre les fermes-usines. et il revient sur une recherche réalisée par ce collectif sur l'ammoniac en Bretagne.
C'est bien d'y revenir, effectivement, parce que cette enquête, on l'a faite après la période de confinement. On s'est dit, bon, y a des conditions particulières après cette période de confinement, c'est-à-dire que pendant le confinement, on n'avait plus de circulation routière, on avait le chauffage urbain réduit quasi à zéro, et on avait l'agriculture qui fonctionnait.
Parce qu'il faisait très beau, c'est ça ?
Il faisait très beau, voilà. Ça a donné qu'on a pu, dans les mesures de qualité de l'air, voir les niveaux de particules fines. Alors, généralement, il y a trois facteurs qui produisent les particules fines. Il y a le transport, le chauffage urbain et l'ammoniac émanant de l'agriculture. Donc, on savait que l'ammoniac avait une part de responsabilité dans la production des particules fines, mais on ne savait pas jusqu'à quel niveau. Et cette particularité du confinement nous a donné une expérience grandeur nature où on a pu démontrer, l'ammoniac, effectivement, émanant de l'activité agricole, notamment les épandages, la dispersion des engrais synthétiques, etc., nous produisent de l'ammoniac qui se retrouve le premier facteur de particules fines. Et pendant cette période, on a eu des dépassements des seuils guides de l'OMS. Donc ça veut dire qu'on est vraiment au-dessus, et même avec un seul facteur qui était uniquement l'agriculture, on a dépassé les seuils recommandés par l'OMS.
François, vous avez fait une sorte de palmarès breton des villes les plus émettrices ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est reparti des...
Des communes,
voilà, c'est ça. On est reparti des chiffres officiels qui sont disponibles en ligne.
Et ça a donné quoi ?
Alors, ça a donné une classification, effectivement, avec le Nord Finistère qui est bien placé. Des points, des communes dans les Côtes d'Armor. Ici, pas très loin d'ici, on a plus Sullien, qui est la première commune des Côtes d'Armor en émission d'ammoniac. Et puis, entre autres, on trouve dans la liste, quand on regarde cette liste, on a Prisiac. Prisiac avec deux élevages de porcs et un élevage de volailles qui, à eux seuls, nous amène Prisiac en 10e position des communes les plus émettrices en ammoniac. À Prisiac, il y a aussi deux projets d'agrandissement de ces deux porcheries. Alors, quand je dis projet d'agrandissement, ils sont autorisés aujourd'hui par le préfet du Morbihan. Donc, ils sont autorisés à produire plus, à consommer plus d'eau et à émettre plus d'ammoniac. Et c'est là que c'est la goutte d'eau, c'est trop. On est déjà avec une saturation en ammoniac, c'est évident. Et il y a vraiment un problème de santé publique déjà qui se pose, qui n'est pas traité par l'État. Et là, le préfet du Morbihan autorise les deux élevages de porcs à s'agrandir, encore une fois, et à émettre encore plus. Et c'est là que c'est pour ça qu'il y a une mobilisation à Prisiac, parce qu'on veut dire, mais qu'on arrête.
Une interview maintenant auprès d'André Sergent, c'est le président des chambres d'agriculture de Bretagne.
Alors déjà, moi, quand on me parle de ferme usine en Bretagne et en France, j'ai un peu de mal à comprendre c'est quoi une ferme usine, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir voyager un peu en Europe et sur la planète même pour voir d'autres agricultures que celles que l'on a chez nous. Et où là, effectivement, on peut parler de ferme usine quand on est dans des puits de l'eau.
Oui, on entend souvent la Chine, tout ça. Vous dites que en fait, l'agriculture n'est pas en train de s'industrialiser en Bretagne ?
Absolument pas. En fait, ce qu'on fait en Bretagne, c'est pour des raisons humaines où les éleveurs, notamment les éleveuses, on souhaite avoir des unités de production plus importantes dans laquelle on peut davantage se moderniser, voilà, et donc c'est la logique de la robotisation, et surtout d'avoir plusieurs unités de main-d'œuvre sur une même entité agricole.
Qu'est-ce que vous comptez faire, le syndicat, la profession agricole, le syndicat majoritaire, pour Prisiac ?
Rien. Rien. Moi, j'ai juste une chose à faire. Aujourd'hui, à la tête de la Chambre d'agriculture, moi, j'ai juste une chose à faire, c'est d'expliquer ce qu'on fait déjà aujourd'hui et d'expliquer les enjeux qui sont devant nous pour l'avenir et pour encourager notamment les jeunes à venir dans notre agriculture, parce que je considère qu'il y a vraiment un avenir intéressant dans cette filière.
Merci beaucoup, André Sergent.
Voilà. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et nous nous rendons au rassemblement avec manifestants et agriculteurs présents pour contre-manifester.
Vous avez une ferme-usine près de chez vous ?
Bah, la ferme-usine, on ferme le tiers.
Il y a combien de bêtes ?
Aucune idée. Personne ne sait. Bah, les vaches ne sortent plus et on ne voit pas. Et à la limite, ils pourraient élever des autruches. On ne voit aucun animal, on ne voit rien.
Jamais.
Jamais. Mais vraiment jamais. Il y a 7 ans, quand on s'est installé là, on voyait les vaches taries et les génisses qui sortaient de temps en temps. Et maintenant, plus rien. Mais vraiment plus rien. On ne voit plus une bête, strictement rien. Même pas une bête morte enlevée par l'écarissage. Le camion d'écarissage rentre dans la ferme, dans un bâtiment.
En quoi c'est. Pour vous, c'est quoi qui. C'est le facteur le plus marquant, c'est que les bêtes sont plus dehors et c'est ça qui représente le caractère industriel de cette ferme.
Essentiellement, oui. C'est le fait que l'ensemble de l'aliment est cultivé, récolté en silé. Ou alors ils font de l'embienage, enfin, c'est un peu pareil, c'est de l'aliment sous plastique en fait.
Donc ça veut dire qu'il y a des gros tas d'ensilage ?
Il y a des énormes tas d'ensilage, des grosses machines, des talus qui ont été enlevés aussi, ils coupent les arbres, ils enlèvent les talus parce que les grosses machines elles ont besoin d'espace pour faire leur travail. Il y a de l'autre côté aussi, plus bucoliques qui ont disparu. On avait un voisin qui faisait des vaches allaitantes en pâturage. Il a pris sa retraite il y a 3 ans. Ces terres ont été reprises par la grosse ferme laitière. À l'occasion, ils ont abattu quelques talus et ils ont remplacé les pâtures par du maïs sans silage. Et au printemps, on avait les naissances des veaux, on avait les bêtes dans les champs toute l'année. Aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça, c'était assez sympathique.
C'est des cultures qui sont traitées, ça ?
Tout est traité, oui. Il n'y a pas une culture qui n'est pas traitée. C'est-à-dire que, en fait, l'essentiel du travail de ces agriculteurs-là, c'est le traitement et l'épandage du lisier. Je les vois surtout faire ça. Les travaux de récolte sont faits par les entreprises. Eux, leur travail, c'est traiter et épandre.
Les agriculteurs n'ont pas voulu s'exprimer, mais le maire de la commune, Dominique Leninivin, l'a fait.
Il y a combien de fermes à Prisiac ?
Alors je ne sais pas exactement.
Vous n'avez pas combien de sièges d'exploitation ?
Non, je ne sais pas, je ne peux même pas vous dire.
C'est une grande commune ?
C'est une commune d'environ 1000 habitants, 4463 hectares. Il y a de moins en moins d'exploitations, effectivement. Mais il y a encore pas mal d'exploitants aujourd'hui qui font vivre notre monde rural, oui.
Vous êtes plutôt du côté quand même des opposants à la manifestation. Vous avez passé toute la manifestation au milieu des agriculteurs.
En fait, je suis venu également soutenir mes agriculteurs parce que je sais que c'est eux qui vont venir faire vivre ma commune dans les années à venir. Par contre, les gens qui sont à cette manifestation, hormis les quelques Prisiacois, je suis sûr qu'à partir de demain, je ne les reverrai plus.
Prisiac est la 3e commune émettrice d'ammoniac, la 10e commune en Bretagne, la 3e en Morbihan. Et la première au niveau du roi Morvan Communauté.
Je veux bien vous croire, mais ce sont vos propos contre...
Non, ce n'est pas mes propos, c'est ce qui a été dit à la tribune.
Oui, mais qui c'est celui qui a dit ça ?
C'est un des porte-paroles de Bretagne contre les fermes.
Oui, mais de quel droit il prend la parole avec des chiffres qui tient d'où ? Moi, les seuls chiffres que je prendrai en compte, c'est ceux de la DDTM, à savoir du cabinet du préfet ou du préfet en lui-même. Autrement, non, je ne peux pas vérifier ces chiffres-là aujourd'hui.
Merci Morgane, Morgane Large, pour ce reportage. Le dernier sujet de cette émission, eh bien, ça va être celui de Jeanne Blanchard, salariée à Radio Évasion, sur la commune du Fou. On est à 30 km de Brest. On va écouter son reportage qui a été réalisé en amont d'un festival qui a eu lieu, lui, fin septembre à Châteaulin, donc en Finistère. L'occasion de découvrir Les Guerrières, une librairie itinérante féministe et LGBTQI+. C'est le projet de Clotilde Burté, projet qui sera en Belgique du 2 au 9 novembre. Parce qu'on peut la suivre sur les réseaux sociaux, Clotilde.
Qu'est-ce que ça apporte que cette librairie, elle soit itinérante ?
Ça apporte, alors il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que pour démarrer, ben forcément, c'est plus léger financièrement, c'est moins impactant, oui, vraiment dans les investissements de départ, ça c'est clair. Et surtout, moi j'ai pensé l'itinérance parce que le territoire des Monts d'Arrée, c'est un territoire, et même un peu autour, hein, globalement, c'est un territoire rural, beaucoup de petites communes disséminées. Et donc c'était un peu une évidence pour moi d'aller vers les gens, d'aller de commune en commune, plutôt que d'ouvrir une boutique fixe quelque part. C'est vraiment, en plus pour l'activité de librairie, ça faisait vraiment pas sens. Et en dehors des Monts d'Arrée, ça me permet aussi d'aller plus loin sur des événements ponctuels, des salons ou des festivals qui sont particulièrement en lien avec la thématique de la librairie. Et ça fait sens aussi parce que finalement le fond féministe et LGBTQIA+, il est encore très peu développé, même si des librairies généralistes commencent à avoir des bons rayons. Ça reste des librairies spécialisées féministes LGBT en France. Il y en a 5 et il y en a encore 2 qui ont fermé d'ailleurs. Et donc c'est vraiment rare, d'où le fait aussi d'aller vers les gens, même en dehors du territoire rural, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous choisissez les ouvrages qui sont dans votre librairie ?
Alors j'ai plusieurs j'ai plusieurs critères. Évidemment, le premier, c'est que c'est des livres qui doivent être dans cette lignée féministe LGBTQI+, sachant que je privilégie encore plus les ouvrages queer que féministes, parce que les ouvrages féministes commencent à être assez bien diffusés, même si ça dépend lesquels et ça dépend de quel féminisme on parle. Mais quand même, et donc déjà il y a ça évidemment, donc je recherche, moi j'ai des, bah déjà il y a des librairies avec lesquelles je travaille, où on s'échange les informations qu'on a, ensuite il y a des représentants, donc les représentants et représentantes c'est les commerciaux et commerciales qui travaillent pour les distributeurs et distributrices, ça c'est toute la chaîne du livre, mais il y en a certaines qui sont vraiment, par exemple, si je cite des maisons d'édition qui sont vraiment chouettes pour mon fond, par exemple les éditions Blast ou bien sûr les éditions du Commun ou Hystérique et Associés, toutes ces éditions-là, par exemple, elles sont diffusées par un même diffuseur. Et chez ce diffuseur, j'ai un représentant qui est vraiment très très bien et avec qui on peut collaborer. Donc lui, c'est très bien le genre d'ouvrages qui peuvent m'intéresser, donc ça m'aide beaucoup, c'est le seul. Hein. Et sinon, c'est beaucoup un travail de veille sur les réseaux sociaux, dans les médias, par personne interposée aussi. Je sais un peu où chercher, puis je sais aussi quelle maison d'édition, mais bien sûr, j'en découvre toujours parce qu'il y a énormément de publications et je pourrais jamais être exhaustive, mais voilà, il y a vraiment un gros travail de veille. Et en dehors de du critère vraiment thématique, j'essaye d'avoir toujours plusieurs genres différents, puisque j'ai de la littérature, des BD romans graphiques, de la science-fiction, des essais, donc des albums jeunesse. Donc j'essaye toujours de répartir quand je fais mes commandes. Voilà. Et je privilégie évidemment des petites maisons d'édition qui travaillent le plus possible avec des imprimeries françaises, etc. Le plus possible. C'est pas toujours simple, mais voilà un peu les critères.
C'est quoi le féminisme que vous voulez visibiliser dans votre librairie ?
Ben, c'est un féminisme, alors c'est un mot maintenant qui est hyper à la mode, mais évidemment intersectionnel, mais ça veut dire beaucoup aussi, décolonial. En fait, c'est un féminisme qui est, où le point de vue qui est vraiment situé, ça c'est difficile peut-être à expliquer, mais qui part d'un point de vue des personnes minoritaires, quoi. Et donc ça veut dire que concrètement, Mona Chollet, je trouve que c'est très bien ce qu'elle écrit. Mais ça ne va pas être ce que je vais privilégier comme ouvrage. Bon, d'abord parce qu'elle est très bien diffusée et c'est tant mieux. Mais je vais plutôt privilégier des ouvrages qui vont parler, par exemple, des maternités subversives, c'est-à-dire des parentalités trans ou autres, ou alors ce qu'on appelle le féminisme prison, mais c'est-à-dire où il y a la question de la justice transformative et la question de la prison qui est présente. Des petits exemples, mais je vais plutôt privilégier ce féminisme-là.
Est-ce que ces thèmes féministes et LGBT+, ont trouvé leur public ?
De fait, il y a des personnes qui cherchent ces livres-là parce qu'elles sont concernées. Donc forcément, c'est le public directement attiré par les ouvrages de la librairie. Après, les ouvrages trouvent leur public de manière plus large, notamment par les albums jeunesse et les romans jeunes adultes, et aussi par les romans, la littérature francophone ou anglophone, qui peut être moins située spécifiquement à des endroits radicaux ou militants, du coup ça peut paraître plus ouvert.
Ce serait quoi vos envies pour le futur ?
Mes envies, ce serait que le projet devienne réellement collectif, parce que là je me suis lancée seule. Il y a des personnes qui commencent à avoir envie de rejoindre l'aventure, de faire quelques petites choses, et tant mieux, mais j'aimerais vraiment que le projet prenne une envergure collective. Pour moi, c'est ça qui fait sens. Et du coup, de développer tout ce qui existe déjà et même encore d'autres choses qui n'existent pas encore. Voilà, c'est ça en fait qui me plairait bien.
Il y a aussi une envie de proposer des livres plus écolos.
Ouais, ben ça... alors, ça dépend pas que de moi. C'est pas moi qui fabrique les livres. D'abord de pouvoir créer une alliance entre éditeuristes et distributeurs, distributrices et libraires, voir comment on peut... Il y a un collectif déjà qui s'appelle Éditer en Féministe, dont fait partie les éditions du Commun, Hystérica Associée, les éditions d'Aaron, qui font un super travail et justement qui réfléchissent aussi à ces questions de fabrication des livres. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui est très très neuf dans le monde du livre, de commencer à se poser des questions sur mais comment les livres sont fabriqués et comment on peut faire pour produire autrement et arrêter par exemple la surproduction, parce que pour l'instant on est dans ces logiques-là de surpublier et surproduire. Mais ça, ça va être un travail vraiment au long cours.
Il y a aussi la question du coup des livres d'occasion qui va se poser.
Oui, je suis en train de développer un fonds d'occasion pour évidemment toujours cette attention à l'accessibilité. Et comme c'est un fonds spécifique, ça met du temps à se constituer. Mais là, je pense que je vais pouvoir proposer le fonds d'occasion pour l'automne et qui viendra complémenter le fonds neuf. Et aussi, je vais développer le fonds en breton. Pour l'instant, j'ai quelques ouvrages de Goater. Et voilà, il y a la maison d'édition de Timilène qui va nous rejoindre aussi. Et donc, l'idée, c'est de développer cette offre-là aussi. Et pourquoi pas d'animer des ateliers en breton. Moi, je ne pourrais pas, mais, parce que je ne parle pas breton. Mais il y a une personne que j'ai rencontrée qui serait vraiment intéressée de développer toute cette partie-là en breton.
L'intégralité de ce reportage qui dure en tout 14 minutes avec des recommandations et puis aussi des questions sur les publics visés, c'est à retrouver en ligne sur le site radioévasion.net. Je vous laisse avec une courte recommandation parce qu'on n'a plus le temps, mais c'est quand même dans le thème. L'art d'habiter la Terre, c'est une séance ciné qui est proposée par Comptoir du Doc et l'association Printemps Bruyant. Rendez-vous à l'Arvor à Rennes lundi prochain, lundi 30 octobre à partir de 20h15 avec deux films qui seront projetés d'abord Autant que faire se peut, film récent de 2022 réalisé par Neuven Denis qui nous emmène en Centre-Bretagne à la rencontre des femmes et des hommes qui inventent leur territoire. Puis le deuxième film, c'était un Québécois en Bretagne, Madame, signé Pierre Perrault, un film là de 1977 qui nous parle de ce qui unit des régions dites marginales. Le détail est à retrouver en ligne sur cinéma-arvor.org. L'arène, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h. Émission qui prend des congés. On se retrouve pour des émissions inédites à partir du lundi 6 novembre. D'ici là, vous pouvez retrouver les podcasts sur le site canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.